La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute encore une fois de La Sexploratrice avec Mel Trudel et Max Lacasse sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
Salut Mel.
Ça va bien toi?
Ça va bien, merci.
Oui.
Absolument.
Bon, hey Max, j'avais tellement hâte à ce soir parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui parle à beaucoup de gens. Puisqu'on parle de 47 % de personnes au Québec qui sont célibataires et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, du célibat. Qui sont ces célibataires heureux et qui sont ces couples heureux?
Il y en a beaucoup, des célibataires heureux.
Bien, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, en fait. Et il faut cesser de voir le célibat comme quelque chose qui est subi. OK? Vous êtes célibataire, bien, profitez-en pour tomber amoureux de la personne la plus importante dans votre vie, qui est vous-même.
Oui, puis on a souvent l'impression que le célibataire, aujourd'hui, est une période d'attente, une attente vers le couple.
Et voilà, exactement. Et là, tu viens de mettre le point exactement là où je voulais m'en aller. C'est cesser d'attendre d'être en couple pour penser que le bonheur sera là. Le bonheur, il est maintenant. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir avec notre cher invité qu'on adore. Il n'en est pas à sa première fois avec nous. On a avec nous la chance, on a la chance d'avoir avec nous Yvon Dallaire, maître en psychologie, auteur, conférencier, consultant. Bonsoir Yvon.
Bonsoir Mel.
Bonsoir Yvon.
Oui.
Bonsoir Marc.
Max.
Max. Très content d'être avec vous deux pour parler justement d'un sujet qui, moi, me tient à cœur depuis très, très longtemps. Là.
Oui.
Le bonheur, seul ou à deux.
Exact.
D'ailleurs, ça me rappelle un jeune homme qui, il y a 2000 ans, est allé voir Socrate ou Aristote, je ne me rappelle jamais lequel des deux, pour lui poser la question existentielle. Devrais-je me marier ou rester célibataire?
Et la réponse fut étonnante.
Et Socrate, après un temps de réflexion, s'est gratté le dessus de la tête et il a dit, peu importe ton choix, tu vas le regretter.
Voilà. C'est vrai.
Ce qu'il faut comprendre dans la boutade de Socrate, c'est que si tu es célibataire, profites-en au maximum.
Oui.
Tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas l'être célibataire. Et si tu es marié, là aussi, profites-en au maximum, puisque tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas perdre ton partenaire, peut-être qu'il va mourir, décéder, peut-être qu'il va te quitter. Donc, dans les deux cas, et c'est la définition du bonheur, hein, profiter de ce que j'ai, et moi je rajoute, et de ce que je suis.
Peu importe votre situation, votre état civil, peu importe, le bonheur, c'est ici et maintenant. Et il faut de toute façon apprendre à créer son propre bonheur pour ensuite être capable de le partager.
Le bonheur se trouve seul, a dit Benoît Magimel, un auteur français, et se partage à deux.
Exact.
Donc, les couples heureux sont généralement formés de deux célibataires heureux.
Mais j'ai un peu de mal, moi, avec le terme bonheur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est tellement, pour prendre le terme à la mode, le galvaudé. C'est quoi pour vous, le bonheur?
Ben, le bonheur, c'est pas nécessairement une accumulation de plaisir physique ou de plaisir relationnel, etc. Le bonheur, pour moi, c'est vraiment quand tu donnes un sens à ta vie, un sens à ton couple. Un objectif de vie. On est sur Terre, quelque part, peut-être pour remplir chacun une mission. Et le bonheur, c'est de pouvoir justement arriver à développer ses talents, développer ses forces pour réussir à s'épanouir soi, épanouir les gens autour de soi et faire en sorte que l'humanité, malgré actuellement, vous le savez, tout ce qui se passe en Israël et en Ukraine, malgré le fait que chez l'humain, le pire existe, mais le meilleur existe aussi et il faut travailler à développer le meilleur.
Et l'humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas plutôt que d'apprécier ce qu'on a. Pourquoi? Est-ce que c'est une raison biologique? Est-ce que c'est la dopamine qui nous rend comme ça? Le fait que quand on a quelque chose, on a un petit boost de dopamine, puis après ça, ça s'estompe, donc là, on a envie d'autre chose?
En psychologie, on parle de l'adaptation hédonique. C'est-à-dire, moi, je traduis ça par la douloureuse morale du plaisir.
Okay.
Même les plaisirs les plus intenses, même la femme la plus belle, le gars le plus beau avec lequel tu partages ta vie, à la longue, ils finissent par s'affadir.
Ouais.
Les gens, par exemple, qui gagnent un gros montant à la loto, sur le coup, ils sont archi heureux. Quand on se marie, on est heureux dans la lune de miel, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'habitue à ce genre de situation-là. Et c'est ce qu'on n'a pas qui devient plus attirant que ce que l'on a.
Okay.
C'est quoi la différence entre le désir et l'envie?
C'est quoi le désir et l'envie? Le désir serait peut-être plus physique, l'envie plus psychologique?
Le désir et l'envie.
Mais ouais, sous toute réserve, là, je pourrais pas...
C'est vrai que c'est intéressant.
Ça ressemble pas mal.
Oui, ouais, le désir. Ben, je pense que l'envie, c'est ça, c'est peut-être... Ben, l'envie, c'est de désirer quelque chose qu'on n'a pas.
Peut-être.
Ouais.
Peut-être.
Mais les gens qui sont toujours dans ce qu'on appelle aussi en psychologie, la fuite par en avant. Mm. Au lieu de profiter de ce qu'ils ont, ils cherchent toujours à améliorer, à remplir, à aller vers du plus, continuellement, oui. Du plus hard, au niveau de la sexualité, entre autres.
Oui.
On va de plus en plus vers du hard, ouais. Alors que non, il faut profiter de qui on est. Et de qu'est-ce qu'on a?
Absolument. Et voyez, moi, ma définition à moi du bonheur, c'est d'être bien dans l'ici et maintenant, de ne pas avoir envie d'être ailleurs qu'ici et maintenant.
De toute façon, Mel, on ne peut pas être ailleurs qu'ici
et maintenant. On
ne
peut pas être ailleurs, c'est ça. Et c'est là où j'aime parler avec des gens qui font un peu d'anxiété. C'est facile à dire, là, parce que ça nous arrive tous à un certain moment d'être anxieux. Mais je parle parfois à mes amis et je dis, écoute, ce qui te fait peur là, ben, c'est soit passé, où ça va peut-être arriver. Ouais. Et il y a seulement 5 % des cas, je crois. Hein? C'est environ 5 % des cas où ça se produit réellement.
La peur est un moyen que notre cerveau utilise pour nous dire ce qu'on doit apprivoiser. Alors, arrêtez d'avoir peur de vos peurs. Comprenez le sens de vos peurs. Et à ce moment-là, ça va vous permettre justement de pouvoir faire baisser votre niveau d'anxiété. Et de toute façon, pourquoi on devient anxieux? C'est parce que généralement, on se projette dans un avenir catastrophique.
Oui.
Alors que si on commence à se projeter dans un avenir heureux,
oui.
Ben, on risque de faire baisser de beaucoup notre sentiment d'anxiété, notre phobie.
Voilà. Puis, il y a des gens qui ont peur d'avoir peur. Hein? C'est
oui,
carrément.
La phobophobie, qu'on
oui,
appelle. Oui,
exact, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime me rappeler, c'est les bons coups. Ouais. Quand on est dans une période où ça ne va pas, où on a peur, on est anxieux par rapport à une situation qui s'en vient ou des trucs comme ça... Rappelez-vous vos bons coups.
Exact.
Où vous parce en que, êtes aujourd'hui.
Parce que si vous vous rappelez vos mauvais coups, vous allez vous sentir coupable.
Voilà.
La culpabilité provient des mauvais souvenirs.
Ouais.
Alors que le bonheur, comme tu le dis si bien, Mel, si je me rappelle les bons coups, si je me rappelle les raisons pour lesquelles je suis devenu amoureux de cette personne-là,
ouais.
Ben à ce moment-là, ça ravive le sentiment amoureux.
Voilà. Et docteur.
Je ne suis pas docteur.
consultant, maître en psychologie, Yvon. On a plusieurs types de célibataires. Hein? On en parlait oui. dans notre conférence « Vivre seul et heureux pour mieux vivre à mm-hmm, deux » qu'on
exact.
Va sans doute refaire éventuellement
j'espère.
Avec la période de questions. Donc, on a plusieurs types de célibataires. Est-ce qu'on pourrait les énumérer peut-être,
oui.
en faire part aux gens?
Ben, tu as le célibataire... qui est celui qui colle, hein, la sangsue.
Oui!
Dès que quelqu'un s'intéresse à lui, il va s'accrocher à lui, il va vouloir avoir votre numéro de téléphone tout de suite et il va vous rappeler dans les 48 heures. Puis deux semaines après, il est prêt à vous marier.
Est-ce que ça, c'est pas justement, là, on parlait de love bombing là, un peu plus tôt cette semaine, ça peut-tu être des gens qui font ça de façon pas malveillante nécessairement, mais c'est une sangsue, c'est vraiment quelqu'un qui est fusionnel ou c'est quelqu'un qui est mal intentionné?
Qui a une très, très mauvaise image de lui-même et une très belle image de l'autre. Et à ce moment-là, ça devient un dépendant émotif. Je ne peux pas vivre sans le regard de l'autre.
OK.
Alors que le regard le plus important qu'on doit avoir, c'est notre regard intérieur sur lui-même, sur nous-mêmes. Alors, si j'ai une perception positive de moi, une perception positive de l'autre, à ce moment-là, on a beaucoup plus de probabilités de former un couple heureux.
Mais on est dans une société où on vit beaucoup dans le regard de l'autre. On est dans une société où les likes importent, où les petits cœurs qu'on laisse sur les photos importent beaucoup. Alors, comment qu'on fait pour se délester de ça, de cette envie-là de vouloir exister dans le regard de l'autre et apprendre enfin à vivre?
Évidemment, je suis le seul à avoir ce regard-là intérieur sur moi. Donc, ça prend beaucoup de maîtrise de soi, de confiance en soi, d'estime de soi pour arriver à avoir un regard positif. Parce qu'il y a des milliers de personnes autour de nous qui peuvent avoir un regard positif ou négatif. Une stratégie que j'utilise avec les clients qui, pour moi, ont mauvaise estime d'eux-mêmes, on est quoi? On est le 17 octobre aujourd'hui?
Oui.
La neige s'en vient. Hein?
Mm-hmm.
La neige. Il y a des gens qui adorent la neige. Les skieurs ont hâte qu'il neige. Mais il y a 800 000 Québécois qui ont déjà pris leur billet d'avion là, ou leur voiture là, pour s'en aller dans le sud.
Ouais.
La neige, elle est neige. Il y a des gens qui la détestent. Il y a des gens qui l'aiment. Mel, elle est Mel. Mel, elle est la neige. Marc, Max, il est la neige.
Ouais.
Yvon, il est Yvon. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, les gens qui me détestent, tant pis pour eux.
Bien, c'est ça. Hey, ça, là, moi, c'est depuis que j'ai à peu près 39 ans que je me fous réellement de ce que les gens peuvent penser et que je me dis, l'important, c'est que moi, je sois bien et que tant que je ne fais pas de mal à personne et que j'ai des comportements corrects dans la vie, bien, je m'en fous de ce que le monde pense. T'sais.
Quand quelqu'un me juge, ouais, j'apprends quelque chose sur la personne qui me juge.
Exactement.
Et cette personne-là a le droit de ne pas m'aimer, comme elle a le droit aussi de m'aimer. Et évidemment, moi, je préfère me tenir avec des gens positifs, des gens qui m'aiment et que j'aime.
Et dans le cas de figure où en couple, il y aurait deux personnes dans le couple, évidemment. Là. Il y a une personne qui a moins... évidemment, à moins d'être un trouble. Mais disons qu'il y a une des deux personnes qui a moins confiance en elle que l'autre et elle s'appuie sur l'autre personne pour avoir confiance en elle. Est-ce que c'est quelque chose de sain et viable?
C'est la base de la dépendance émotive. Dans les couples qui vont mal, dans les couples qui viennent consulter, en général, il y a toujours quelqu'un qui étouffe dans son couple et l'autre qui a l'impression de ne pas avoir suffisamment de nous. Okay? Donc, il va vouloir chercher plus d'intimité, plus d'activité, plus de communication, plus de sexualité, alors que l'autre, il y en a assez. Donc, lui, il voudrait plus, ou elle, voudrait plus d'espace, plus de temps pour soi. Okay?
Ouais.
Alors, dans tous les couples, y compris les couples heureux, il y a toujours une espèce de lutte dans ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Okay? Tant et aussi longtemps que dans la lune de miel, on est passionné.
Oui.
Et on a hâte de finir de travailler pour se retrouver ensemble. Et on passe facilement 25-30 heures en tête-à-tête à parler, à rêver notre avenir et à baiser. Okay? Mais à un moment donné, il y a un des deux dont le besoin de fusion est satisfait. Puis là, ben, je vais retourner voir mes copains. Je vais retourner m'investir davantage dans mon travail ou auprès de mes enfants ou de mes amis. Et là, l'autre qui n'a pas le besoin de fusion totalement satisfait, ben, comme le dit si bien la psychologie positive, plus tu me fuis, plus je te poursuis.
Ouais,
mais plus tu me poursuis, plus je te fuis.
Ouais.
Les couples heureux sont ceux qui ont réussi à gérer le paradoxe de la passion et qui fait que ce n'est pas un des deux qui est plus à la recherche de fusion ou plus à la recherche d'autonomie. Ils ont sensiblement le même besoin d'autonomie et de passion.
Et justement, est-ce que ça se peut d'être à ce point-là, un lac d'huile d'être au beau fixe comme ça? Parce que si on part du principe que l'homme est souffrance, en quelque sorte, vous avez déjà entendu la théorie du triangle de Cartman, qui dit qu'on est à la fois persécuteur, victime et sauveur, exactement. Oui. Est-ce que c'est possible d'être tellement sain dans un couple qu'on est à égalité, où il y aura toujours un rapport de force différent?
Et 20% des couples y parviennent. Et souvent, ils y parviennent après avoir passé par des moments critiques.
C'est quand même pas beaucoup, hein, 20% des couples,
non,
en fait.
Non.
C'est seulement
minime.
20% des couples qui perdurent, finalement.
Oui, c'est ça, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, 50% des couples vont finir par divorcer.
Oui.
Et ce taux-là continue d'augmenter. Okay? Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils s'installent en couple très rapidement et démissionnent trop rapidement avant d'avoir compris que le couple est un creuset pour générer des crises de croissance.
Des amours jetables.
Okay?
Oui.
Alors, c'est ça. Là. Mais dans les couples qui viennent nous consulter, dans les couples qui finissent par s'endurer ou se séparer, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui étouffe dans ce couple-là et l'autre qui a l'impression que nous n'existons pas.
Mm-hmm.
Donc, il y a une espèce de lutte pour le pouvoir, hein, pour pouvoir satisfaire ou mon besoin de fusion ou mon besoin d'autonomie.
Et c'est quoi déjà le pourcentage de couples qui se résignent? Est-ce que
si on parle de 50% de couples qui se séparent, ça, c'est les premiers couples. Parce que les deuxièmes couples, on va jusqu'à 75 %.
Oui.
Parce que... pourquoi ailleurs, ce ne sera pas meilleur, Mel?
Mm-hmm. Bien, pourquoi ailleurs, ce ne sera pas meilleur?
Parce que tu vas y être.
Oui. Effectivement.
C'est profond.
Et si tu n'as pas changé tes connaissances, tes attitudes, tes croyances par rapport au bonheur, par rapport au couple, tu risques fort de répéter exactement le même pattern.
Exact.
Tant il y a aussi longtemps que tu n'auras pas compris le sens du pattern.
Oui.
Okay? Mais c'est ça, c'est que les moments critiques qu'un couple peut vivre ou qu'une personne peut vivre avec lui-même, avec elle-même, ça peut être ce que moi j'appelle des périodes de désintégration positive. Okay? On défait ce qui fait qu'on est malheureux pour pouvoir essayer de reconstruire sur des bases plus solides. la confiance en soi, l'estime de soi, exact, etc.
Et qu'est-ce qui expliquerait que le taux de célibataire augmente autant? Parce qu'on est passé là, en 2014, si je ne me trompe, à 36 % exact, de taux de célibataire au Québec, 36,5. On est monté à 40, là, on est rendu à plus de 47 % maintenant. Exact. Au Canada, si je me trompe, c'est même 52, ça se peut-tu? En tout cas, j'ai...
Non, ça, c'est Paris. Paris, c'est la capitale mondiale du...
On est allé à Paris, moi.
On en a déjà parlé.
Hein? Oh. Moi, Yvon, oui.
C'est la capitale mondiale des célibataires.
Pas facile d'être une vedette.
Oui! On a eu du plaisir, vraiment. On a rencontré les soirées d'Annie, puis en tout cas, c'était vraiment...
Mais c'est pas logique que le taux de célibataire soit aussi haut si tout le monde se divorce.
Ben oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de célibataires, en fait? Est-ce que c'est le fait que, ben, premièrement, on a le prolongement de l'espérance de vie, bon, exact, inévitablement? Exact, oui. Et est-ce que le fait que les gens ont peut-être moins envie, justement, de s'embarquer, puisqu'on a différentes formules également à notre portée? Maintenant, on le sait, la société, la religion, c'est eux qui nous dictaient qu'il fallait être en couple, monogame, habiter sous le même toit, alors que maintenant, parce qu'il faut le dire, dans ces 47 %-là, c'est des gens qui ont le statut état civil célibataire. Oui. Donc, peut-être qu'ils sont tout de même en couple, mais dans des maisons séparées.
Oui, il y a ce qu'on appelle des VCCS, vivant chacun chez soi.
Ah, ça aussi, il y en a de plus en plus.
C'est la traduction française de « living apart together ».
OK.
Mais il y en a certainement, dans le 47 % dont tu parles,
oui,
certains qui sont en VCCS. Généralement, ce sont des jeunes couples qui n'ont pas suffisamment d'argent pour aller avoir leur propre appartement. Donc, ils vivent encore chez leurs parents, qui leur permettent de se visiter dans leur chambre. Et l'autre catégorie de VCCS, c'est des gens qui ont vécu, qui sont séparés, veufs, et qui ne veulent pas, dans une nouvelle relation, mélanger leur tribu et leur patrimoine. Donc, chacun reste chez eux tant il y a aussi longtemps que les enfants sont là. Et parfois, souvent, ben, une fois que les enfants partent, ils décident de s'installer dans le même nid.
Puis, est-ce que je me trompe ou ça pourrait être une façon, justement, qui pourrait être positive dans le sens que relation à distance ou ne pas habiter sous le même toit pourrait venir qu'à être quand même positive dans le sens qu'on peut raviver la flamme ou en n'étant pas 24 heures sur 24 ensemble?
Avoir hâte.
Oui.
C'est sûr que par définition, je désire ce que je ne possède pas. Alors, si mon partenaire agit comme s'il était possédé une fois pour toutes, ben c'est sûr que le désir risque de s'éteindre. Okay? Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de distance. Parce que s'il y a trop de distance, comme on dit si bien, loin des yeux, loin du cœur, et loin du sexe, et loin de l'âme aussi. Okay? Donc, la distance, ça prend une juste distance entre, et les gens mélangent. Ils pensent que l'intimité, c'est la fusion. Alors que l'intimité, c'est une juste distance entre des moments de fusion et des moments d'autonomie. Je reviens au fameux paradoxe de la passion, là.
Oui.
Que tous les couples, s'ils veulent être heureux, doivent apprendre à gérer. Pas à solutionner. C'est impossible que les deux aient toujours en même temps le même besoin de fusion ou le même besoin d'autonomie. Il faut que ça varie et il faut que chacun accepte que, bon, là, tu es très disponible pour moi, mais peut-être que tantôt, tu vas être moins disponible. Okay? Ou peut-être que tantôt, comme ma blonde a déjà dit, Yvon, c'est quand tu retournes en Europe, là, j'aimerais ça avoir un peu de la pelle.
Oh, elle est adorable, René.
Est-ce que vous pensez que la montée en popularité des applications de rencontres, qui sont ni plus ni moins qu'un buffet à écran lumineux incandescent, ça fait en sorte que les gens se séparent plus facilement aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choix qui s'offrent à nous que les amours deviennent par définition jetables?
C'est que, à mon avis, la principale raison, c'est qu'on vit dans une société de « me, myself and I ». Et on devient excessivement exigeant. Et si l'autre n'est pas exactement comme je le voudrais, comme la définition de l'âme, ça...
Mais je comprends, mais au début, vous disiez qu'il faut se concentrer sur nous. Le bonheur, c'est se concentrer sur nous. Puis là, vous dites qu'on vit trop dans une société « me, myself and I ».
Oui, mais c'est partir de nous pour aller vers les autres.
OK.
Alors que ceux dont on parle surtout, c'est que c'est les autres vers moi. Mais moi, c'est dans ce sens-là. Ça s'appelle
nuance.
De l'égocentrisme.
Okay.
Ouais.
C'est une belle nuance.
Il y a une différence, en tout cas. Moi, je trouve que le dictionnaire définit très mal le mot égoïsme, parce que l'égoïsme, c'est de partir de moi, de mes besoins, de ce que je veux, de ce que je suis, pour aller vers les autres, vers une autre personne, pour pouvoir trouver un compagnon de vie.
Et l'égocentrisme.
Un invité spécial dans ma vie. Alors que l'égocentrisme, c'est moi qui dois être toujours au centre.
Tout apporter. Ah, c'est bon! Tabarouette, j'avais pas vu ça comme ça. Vraiment. Mm-hmm. On apprend toujours des choses avec Yvon. C'est toujours hyper fascinant. Donc c'est pas parce qu'il y a des célibataires qui sont bien et heureux seuls.
Non.
Ils ne sont pas nécessairement égoïstes, puisque de toute façon, c'est prouvé, les couples qui perdurent sont formés de deux célibataires
heureux.
Heureux.
Mais les études nous démontrent que pour 24 % de célibataires heureux,
oui,
il y en a plus que le double qui sont en couple.
Oh.
C'est plus facile d'être heureux à deux que d'être heureux seul. Et les études qui ont été faites en psychologie positive, Seligman et compagnie, ont démontré que, je ne me rappelle pas le nombre de couples heureux, là, mais ça dépasse 50, je pense, autour de 55 % des couples, premier, deuxième ou troisième couple, il y a quand même plus d'un couple sur deux qui sont heureux, OK, pour 24 % des célibataires.
OK.
C'est-à-dire à peine un célibataire sur quatre.
Mm.
OK, mais ça, c'est sûr que, bon, tantôt je disais, parce que si on commence à jouer dans les chiffres, là...
Ouais. Moi, je fais de la dyscalculie un peu, je inverse sur les chiffres.
80 % des gens ne parviennent pas à être heureux en couple. La première fois...
Combien de pourcents?
80 % 50 % divorce, 30 % se résigne,
oui,
et
ben
un
oui,
premier couple, à peine 20 %
oui.
Mais dans un deuxième couple, si on a appris, si j'ai changé mes perceptions, si j'ai changé mes attentes...
Si j'ai travaillé sur moi,
si
sur mes blessures,
baissé,
les
oui, si j'ai baissé mes illusions,
oui.
Ben à ce moment-là, j'ai quand même 25 % dans un deuxième couple, la possibilité de former un couple heureux.
Mm-hmm.
Et dans un troisième couple, dont je suis, j'ai eu deux premières relations qui ont duré 5 ans.
Ouais.
Dans les deux cas, c'est moi qui suis parti parce que j'étais pas bien là. Et la troisième, Renée, que tu connais, que j'ai rencontrée il y a 41 ans, ben c'est la troisième. Et les troisièmes couples, c'est 15 % Alors, si on additionne 20 % des premiers, 25 % des deuxièmes et 15 % des troisièmes, ça donne un peu plus de 50 % de couples qui sont heureux ou qui se disent très heureux.
J'ai l'impression que lorsqu'on devient un célibataire heureux...
Ce que j'ai été pendant mes deux périodes de célibat entre mes trois femmes...
Bien, en fait, c'est qu'on devient un peu plus sélectif. Ça devient un peu dangereux puisque j'ai l'impression que lorsqu'on est bien seul avec soi-même, qu'on a découvert nos propres passions, ce qui nous allumait quand on s'entoure de personnes au niveau relationnel, la famille, les amis, tout ça, lorsqu'on est bien entouré et tout, eh bien, de rencontrer la bonne personne, on est de plus en plus sélectif. Donc, ça peut prendre peut-être plus de temps avant de rencontrer la bonne personne, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on est bien.
C'est exact. Si j'ai apprivoisé ma solitude, que je n'associe pas à l'isolement,
la différence.
La solitude, c'est je passe une soirée agréable avec la personne la plus importante de ma vie.
Moi.
Avec laquelle je suis assuré d'être avec.
Oui.
OK. Et sans être narcissique, là.
Non, non.
J'ai une bonne estime de moi.
Oui.
Et je peux passer une soirée agréable avec la personne la plus importante de ma vie. OK.
Oui.
Et à ce moment-là, comme tu viens de le dire, on est plus exigeant parce qu'on veut s'élever en amour.
Et pas tomber
et
en amour.
Et pas tomber en amour.
Wow.
Une grande nuance.
Oui.
Parce que quand on tombe, on perd le contrôle.
Oui.
On donne le contrôle et le pouvoir à l'autre.
C'est vrai.
Et on demande à l'autre de faire pour soi ce que nous-mêmes, on ne fait pas pour soi-même.
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure, à deux reprises, le terme résigner, ce qui signifie aussi abandon. À quel moment dans le couple on doit se résigner? C'est-à-dire que parfois, l'amour, ce n'est pas gage de tout.
À quel moment on
se dit, OK, ça vaut la peine que je me batte.
Oui.
Ça vaut la peine que j'essaye encore de régler mon couple, alors qu'au final, peut-être que ce n'est pas la bonne personne avec nous.
La différence entre persévérance et acharnement.
Exactement.
À moins d'être dans une relation toxique. Où il y a de la violence, il y a de la violence physique, sexuelle, psychologique, etc., de la manipulation, etc., à moins d'être dans une relation toxique, tous les couples peuvent et valent la peine d'être sauvés et améliorés, à la condition que les deux travaillent dans la même direction.
Ouais.
Et que chacun arrête de se poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et la question, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour nous? Qu'est-ce que chacun des deux partenaires... C'est ça, le processus thérapeutique.
Ouais.
La thérapie conjugale ne commence pas tant et aussi longtemps que chacun des deux remette l'autre en question et ne commence pas à se remettre en question. Et généralement, qu'est-ce qui fait d'un couple qui est heureux pendant la lune de miel, qui devient malheureux, c'est qu'on attend trop de l'autre. On veut trop que l'autre soit comme je voudrais qu'il soit, au lieu d'accepter que l'autre soit exactement comme il est et de pouvoir en profiter.
Ça, c'est fou, hein, les gens qui souhaitent changer l'autre. Alors qu'initialement, puis ça, moi et d'autres personnes, en fait, on l'a vécu comme ça. Il y a des gens qui sont attirés par notre couleur, par notre extravagance, par le fait qu'on est très sociable et tout ça.
Ou notre côté zen.
Oui, ou notre côté zen. Mais une fois en couple, le partenaire pourrait trouver que la personne est plus zen, est plate, ou la personne est trop sociable, trop extravagante. Et là, ce qui était initialement une qualité est devenu un défaut dans les yeux de l'autre. Et l'autre veut éteindre.
Et c'est ce qui fait que les psychologues disent que la raison pour laquelle je me divorce, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé l'autre intéressant.
Oui!
Et ma façon de dire la même chose, c'est quoi la différence entre « tu m'excites » et « tu m'énerves » 3 à 5 ans.
Ah ouais.
3 à 5 ans?
Ben oui, la lune de miel, la passion dure 2 à 3 ans.
Environ.
Puis là, tranquillement, ben, je découvre qui est réellement l'autre dans sa réalité, dans ses défauts, dans ses faiblesses.
Période de désenchantement.
Et si je mets... C'est la première crise dans l'évolution d'un couple, la phase de désidéalisation. Et si je mets l'accent à ce moment-là sur qu'est-ce que j'aime pas chez l'autre, c'est évident que... Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de l'âge moyen de la séparation, là, c'est 4 ans et demi. Hein?
Ah oui?
Alors qu'il y a quelques décennies, c'était la 7e année qui était l'année médiane, l'année charnière. OK? 50 % des couples qui divorcent aujourd'hui divorcent avant 4 ans et demi. Ça correspond généralement à la période de désidéalisation et souvent à l'arrivée du fruit de notre amour qui redevient le fruit de la division. Ouais.
Oh là là, c'est super intéressant, mais on doit s'arrêter pour aller à la pause. Donc, vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X. Et merci d'être à l'écoute en si grand nombre. Écrivez-nous donc ça, là, d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. C'est toujours le fun de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez, même si on ne vous répond pas tout le temps. Nous, on vous lit, puis on aime vraiment ça. Donc, merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut pratiquer ce métier qu'on aime tant.
Ben, sinon, on aurait juste l'air de deux fous qui se parlent tout seuls.
Ben, c'est ça.
Personne veut ça.
Ben, le 3, là,
ouais, voilà, dans le 3 en ce moment. Donc, on est en compagnie de notre cher Yvon Dallaire, maître en psychologie, consultant, conférencier, auteur. D'ailleurs, restez à l'écoute parce qu'on va vous parler du livre « Moi aussi, moi plus, mille une différences hommes-femmes » qu'on fera tirer à la fin de l'émission. Donc, restez à l'écoute, on vous parle de ça. Et on poursuit tout de suite avec les différents types de célibataires.
J'ai parlé de la sangsue.
Oui, la sangsue.
Qui a hâte, lui, de trouver quelqu'un. Okay, mais il y en a 6 autres.
Oui.
Il y a l'ours grognon. Celui qui est toujours en train de critiquer contre tout, là.
Ah oui, ça, c'est un ça. Y a-t-il quelque chose à faire contre ces hommes grognons-là?
Ah ben, les fuir.
Ah, OK.
Pas hiberner avec eux autres.
Non. Pas essayer de les convaincre que la vie est belle, etc., etc. Non, on les fuit. On les laisse dans sa merde, excusez l'expression. Là.
Ben oui, ben c'est ça.
Il y a aussi le pan.
Ah oui, le...
Ouh. Oui, celui qui court tous les 5 à 7. Celui que vous voyez partout. Quand il est quelque part, tout le monde le voit. Il s'organise toujours pour attirer l'attention. Mais il a peur de s'engager.
Donc, c'est un évitant. On pourrait-tu trouver les styles d'attachement à ce monde-là?
Tous ces célibataires malheureux ont généralement une mauvaise estime d'eux-mêmes qui vont essayer de transformer. Le pan, lui, essaie de transformer en se montrant le plus beau possible, mais il n'y a pas une belle image intérieure de lui-même. Là. Okay? Il y a aussi la fourmi.
Oui!
Le célibataire, lui, c'est le travailleur, il passe son temps à travailler et il se dit « Un jour, quand je serai devenu millionnaire, je pourrai enfin m'occuper de ma vie privée et essayer de trouver quelqu'un. Okay? » C'est quelqu'un qui est très riche, qui se promène en belle voiture, etc., qui a tous les plus beaux vêtements.
Et on en connaît. Hein?
Mais, on en connaît beaucoup.
On en connaît tous.
On en connaît mais beaucoup.
Qui lui aussi a peur de s'engager. Oui. Il y a le caméléon. Il va toujours vous dire oui. Il est toujours d'accord avec vous. Et s'il parle avec quelqu'un d'autre qui dit le contraire, il va être d'accord avec lui.
Oui, c'est plate, ça.
Okay? Il s'adapte aux gens qui sont autour de lui et a peur de s'affirmer dans sa différence.
C'est-tu quelqu'un qui n'a pas de personnalité, ça, le caméléon?
C'est
quelqu'un qui ne veut pas déplaire.
C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas déplaire. C'est un dépendant émotif qui a absolument besoin du regard positif de l'autre. Donc, il n'ira pas le contredire pour ne pas provoquer.
Il y a des gens comme ça aussi qui sont très serviables, qui sont très généreux, mais tout ça, c'est tout simplement pour vivre dans le regard de l'autre et recevoir des merci et avoir l'impression de...
d'être aimé.
Oui, ouais. Exactement. J'ai déjà lu, moi, ces gens qui veulent plaire à tout prix.
Oui.
Donc, c'est un livre que vous pourriez lire si vous êtes de ce type-là. Oui. c'est quelque
la dépendance
chose qui peut
émotive,
aider.
Il y a énormément de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être bien s'il n'y a pas quelqu'un qui les aime.
Exact.
Alors, il faut... On parlait de Lucien Auger tout à l'heure, hors onde. Dans lequel Lucien a écrit un petit livre qui est un véritable bijou, « S'aider soi-même, une thérapie par la raison ». Et un des objectifs qu'il dit, ou une des stratégies qu'il faut utiliser, c'est faire baisser son besoin d'approbation. Même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de valeur. Okay? Je reviens à l'histoire de la neige tantôt. Là.
Oui!
Je suis la neige. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. So what? Ceux qui ne m'aiment pas, tant pis pour eux.
Ouais.
Ceux qui m'aiment, tant mieux pour eux.
C'est que peu importe ce qu'on va faire dans la vie, il
oui.
y aura toujours des gens qui vont juger. Peu importe.
Il y a des grognons.
Ah oui, il y a des grognons. Et la meilleure preuve, OK, en ayant créé une application de rencontre, mm-hmm. j'étais en couple depuis déjà 5 ans quand j'ai créé l'application de rencontre Go See You. Et là, les gens, il y a des gens qui me disaient, ben voyons, tu as créé une application de rencontre puis tu es en couple. C'est pas un peu bizarre? Non, je connaissais plein de gens matchés, donc oui. Je trouvais que c'était une bonne
idée. Un gars qui travaille sa construction peut construire des maisons et en avoir une.
Ben voilà. Et là, lorsque je suis tombée célibataire, je recevais les commentaires suivants. Mais là, t'es célibataire puis t'as une app de dating. Est-ce que ça marche pas ou quoi? Ben voyons les gens. Premièrement, jamais j'utiliserai mes propres services de rencontre pour rencontrer parce que ce serait vraiment pas éthique, selon moi.
Non.
Mais en plus, je veux dire, j'ai une vie comme tout le monde. Une sexologue n'a pas nécessairement pratiqué tout ce qu'elle traite. Ben c'est ça. Fait que les gens ont toujours quelque chose à dire, peu importe.
Ouais,
et les gens se fient toujours sur des parcelles de vie que vous partagez, que ce soit en story qui disparaît au bout de 24 heures sur les réseaux sociaux ou des posts sur les réseaux. Les gens se servent de ça pour juger. Ils vous créent une vie que vous n'avez pas.
Ouais.
C'est hallucinant, là.
Puis vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, Yvon. Vous avez dit baisser notre besoin d'approbation selon la psychologie de Lucien Auger. Parce qu'on ne peut pas la faire disparaître. Hein. L'homme, la femme est un animal qui, à juste mesure, a quand même besoin d'approbation.
Ben
donc,
oui,
tout ce qu'on
ben
peut faire,
on est des
c'est le baisser.
Sociaux.
C'est un besoin.
On est à la recherche de communautarisme. Okay? Et la base du bonheur, un des deux piliers du bonheur à long terme, c'est la chaleur des relations humaines. Donc, c'est sûr qu'on est des animaux sociaux qui recherchons. Et quand on a un réseau d'amis, ça n'en prend pas 50, là. T'as un bon petit réseau d'amis et un invité spécial dans ta vie, que j'appelle un partenaire de vie, un conjoint, ben à ce moment-là, et si en plus on est gratifiant par rapport à la vie, c'est les deux piliers du bonheur. Hein? La chaleur des relations humaines, dont une relation privilégiée, et la gratitude envers les gens qui nous entourent, envers le matériel qui nous rend la vie beaucoup plus facile, etc.
Puis, dans l'échelle des besoins essentiels dans la vie, aimer, être aimé, ça fait partie.
C'est la troisième étape.
Mais ce n'est pas essentiel d'avoir un partenaire. Non. Donc, on pourrait très bien être seul, célibataire, mais être très bien entouré.
L'amour n'est pas un besoin vital.
OK.
Il faut arrêter de s'illusionner. Manger,
l'affection,
manger, déféquer, se protéger des intempéries, dormir, ce sont des besoins vitaux.
OK.
Et après, les besoins vitaux satisfaits, ben, c'est le besoin de
communiquer.
Ça, c'est plus aussi. Ah. C'est le besoin d'appartenance.
Oui.
On vient d'où je suis avec qui, etc. Et le besoin d'aimer et d'être aimé vient en troisième lieu.
Mm.
OK. Donc, de pouvoir satisfaire ses besoins physiques, pour essayer de survivre. Remarquez qu'il y a des gens sur Terre actuellement qui passent 80% de leur temps à assurer leur survie physique.
Ouais.
OK? Nous, on est chanceux dans notre milieu. Là, on passe quoi? 20% de notre temps à assurer notre survie physique. Il nous reste 80% de notre temps pour faire autre chose.
Créer d'autres problèmes.
On peut-tu prendre deux minutes pour...
La créativité, justement.
Exactement.
Voilà. On peut-tu prendre deux minutes juste pour dire qu'on est tabarouettement chanceux d'être ici, dans ce coin de pays où c'est calme, où on peut sortir, retourner à la maison tranquille, alors qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui reçoivent des bombes sur la tête.
Il n'y a aucun doute.
Gratitude.
Le monde est injustice.
On n'est pas à l'abri. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut exploser.
Mel me parle beaucoup d'un livre ces temps-ci, La magie.
La magie.
Puis elle me parle de la gratitude, à quel point c'est important. Exactement, la loi d'attraction, à quel point c'est important de l'exprimer. Est-ce que vous pensez, vous, que dans une relation, apprendre à exprimer sa gratitude, non seulement envers nous, mais envers l'être aimé, c'est quelque chose qui peut nous apporter le bonheur?
Les seules émotions qu'on devrait exprimer, ce sont les émotions positives.
Mais c'est impossible, ça.
Oui, c'est possible.
Mais non, mais
les gens heureux, pas me demander c'est ce qu'ils
juste...
font.
Mais oui, mais vous pouvez pas me demander juste d'exprimer des émotions positives oui. alors qu'on en vit tous
c'est
au quotidien.
C'est quoi une émotion?
C'est un ressenti.
Une émotion, c'est un message que mon corps m'envoie à moi pour me dire que j'ai un besoin satisfait.
Oui.
Donc, je suis heureux.
Ou insatisfait.
Ou insatisfait. Et s'il est insatisfait, ben, je suis en colère contre la personne qui me frustre.
Donc, faut pas exprimer ouais. cette émotion-là.
J'ai peur que mon besoin de soit pas jamais satisfait. Je me sens coupable de ne pas être capable de le satisfaire. Je me sens triste parce qu'il n'est pas satisfait.
Donc, on n'en parle pas?
Non.
Quoi?
Ravaler une émotion dite négative, désagréable, ça n'a jamais donné le cancer. Ça, c'est une... C'est de l'exploitation de la naïveté
maladie,
des gens, ça.
Maladire, c'est pas vrai, hein, ça?
Non.
C'est ce que le docteur Simon
mais les
dit.
Gens heureux...
Oui.
Alors, apprendre à verbaliser ces émotions néfastes, ce qu'on ressent qui nous fait sentir mal, c'est pas bon, selon vous?
Ben non. À chaque fois que je dis, que j'exprime ma colère, je sensibilise les neurones associés à ma colère dans mon cerveau et je vais me mettre en colère pour des raisons de plus en plus futiles.
On fait des amalgames.
Si, à chaque fois que j'ai une déception, je me mets à pleurer, à chaque fois que je pleure, je stimule les neurones associés à la tristesse.
Et
je vais me mettre en tristesse de plus en plus pour des raisons futiles et je vais finir par déprimer.
Oh.
Mais oui, ce qui est vrai pour les émotions dites désagréables, à chaque fois, Max, que je vais dire que je t'aime, je vais stimuler les émotions, les neurones associés à l'émotion amour et on incentre du bonheur dans le cerveau. Là. Et à ce moment-là, je vais stimuler ces émotions-là puis je vais t'aimer de plus en plus. Et c'est drôle, tu vas te comporter de façon de plus en plus aimable. Qui n'aime pas se faire dire qu'il est beau, fin, gentil?
OK, alors c'est notre réaction par rapport aux événements qu'il faut tenter de changer.
Oui.
Mais vous comprenez que c'est quelque chose de presque
vraiment
impossible.
Difficile.
C'est-à-dire les que couples... c'est un réflexe humain oui. d'éprouver de la colère exact. Envers quelque chose, d'éprouver de la honte envers
surtout
quelque chose.
Surtout chez les impulsifs.
Puis on ne peut pas le ravaler comme ça d'une minute
non,
à l'autre.
Il ne faut pas ravaler, il ne faut pas réprimer. Il faut comprendre le message sous-jacent. OK? Mm.
Lire entre les lignes.
Oui, de dire par exemple à mon partenaire, tu n'es jamais là. Au moment où il est là.
Comment on pourrait le dire à ce moment-là?
Ça
mais
va
non,
pas,
mais
là.
C'est vrai! C'est bon, ça! OK. Mais
donc, je m'excuse, mais
oui.
quand mon partenaire est là, lui dire « Mais j'aime tellement ça quand t'es là, mon amour! »
Ah, je comprends!
Okay. On ne fait jamais rien ensemble. Hey, au lieu de dire ça, parce que l'autre, il se sent attaqué, cavalier de l'apocalypse, là.
Ouais.
Devant une attaque, je me défends, je me justifie. Alors, chérie... Hey, la dernière fois qu'on est allé au cinéma, j'ai tellement aimé ça, j'aimerais ça y retourner avec toi.
Ah, oh, c'est bon, OK!
C'est ça, okay, parler
positivement. Ah,
les
oui.
couples
okay.
malheureux sont devenus experts en communication merdique.
Donc, on se pique sans
les
cesse.
Les couples heureux
ils font des
sont devenus experts en communication florale.
Parce qu'on ouais. est des animaux esselés, puis on essaye de mordre l'autre parce qu'on souffre nous-mêmes.
Oui.
Alors, quand
ah,
on est blessé,
c'est bon.
Ce qu'on devrait faire, c'est apprendre à penser nos propres blessures pour éviter de jeter notre dévolu sur notre partenaire.
En
c'est
dessous
exact?
De chacune de nos émotions, il y a un besoin. C'est le besoin qu'il faut exprimer.
Wow! Hey, on fait
pas la frustration.
Mise en contexte,
pas le besoin.
Ouais,
pas l'émotion négative.
Donc, si vous ne faites pas l'amour assez souvent à votre goût, quand vous le faites, dites-le à votre partenaire à quel point vous aimez faire l'amour avec elle
et
ou avec
rappelez-vous
lui.
Rappelez-vous tout ce que vous faisiez pendant la lune de miel qui faisait
ouais.
qu'il
n'y
avait pas de problème sexuel à ce moment-là.
Ça, je le dis souvent. Remémorez-vous
ben oui.
votre lune de miel. Redatez-vous dans un endroit que vous n'avez jamais visité. Une nouvelle activité, quelque chose de...
Dans mon bureau, les couples se disputent des fois. Et là, je dis, time out, on arrête, là. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de se disputer. Puis là, je demande généralement à madame en premier, parce que monsieur, quand il est pris avec une émotion négative, il est bloqué, là. Il est stallé, comme on dit en anglais. Alors, je demande à madame, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue amoureuse de ce crapaud-là?
Ah oui, parce que là, on va expliquer hein, le crapaud et la sorcière. Il faudrait expliquer, bon, là. On peut pas aller là direct sans explication.
Alors, si madame... Oh, mais il était tellement fin, tellement ci, tellement ça, ce moment-là. C'était fantastique. Mais si elle me répond, ben justement, je me le demande. Mm. Oula, moi, je sais, je suis capable de gager si ce couple-là va survivre à la thérapie ou pas.
Puis en conférence, Yvon, tu parles souvent justement du crapaud et de la sorcière.
Oui.
Est-ce qu'on peut expliquer aux gens? Ça sort d'où, ça?
Ben, un crapaud, c'est une belle manifestation de la vie.
Une belle? On n'est pas sûr.
Ben oui, c'est une belle manifestation de la vie. Tous les animaux, ils sont faits comme ça. Les gens qui disent c'est laid ou c'est beau, c'est une perception très subjective, ça.
Mm-hmm.
Un crapaud, c'est ni laid ni beau. C'est comme la neige. dont on parlait tantôt.
Ah, comme la neige a neigé.
J'ai partagé quelque chose récemment et je demandais aux gens, imaginez si on pouvait voir l'âme des gens plutôt que leur physique.
Ou leur comportement. Le comportement peut être agressant, oui. violent, mais la personne, elle est souffrante.
Oui,
elle est sensible.
Donc, imaginez à quel point le point de beauté, quel point l'image de la beauté serait différente si on pouvait voir l'âme des gens plutôt.
Oui. Il y en a qui croient en Dieu, un être supérieur là, qui nous attend quelque part.
Oui.
Mais Dieu, il est au fond de Max. Il est au fin fond de...
Amen! Alléluia!
Je suis Dieu.
On parlait de l'importance de se remémorer les lunes de miel du début, c'est-à-dire qu'il y a une effervescence au début.
Ben oui.
C'est
oui.
exact, là, tout le monde le sait. Ça veut-tu dire que la routine puis le confort, c'est un tue-l'amour?
Ben, c'est parce qu'au début, on n'est pas en amour avec l'autre.
On est en amour avec l'image qu'on a de l'autre.
Non, on est en amour avec les sensations, les émotions, les rêves qu'on a. Mais un jour ou l'autre, je découvre le crapaud ou la sorcière. Et si monsieur n'apprend pas que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance, il n'acceptera jamais de recevoir des conseils non sollicités de sa partenaire. Et les sorcières adorent nous donner des conseils non sollicités pour nous améliorer.
Fait que les boys, bon. Quand votre femme vous parle, il faut que vous écoutiez.
Quand votre femme vous donne un conseil non sollicité, dites-lui « Merci beaucoup, mamante. »
Mamante?
Oui.
Mamante.
C'est comme un mélange entre maman puis...
Amante?
Amante, ah, OK.
Ben oui, on peut pas sortir une maman d'une femme.
Je pense à une mante religieuse, là, tu sais, le genre de bébête qui mange l'autre.
On peut pas sortir une maman d'une femme?
Non, non. Toute femme est une maman, même si elle n'a jamais enfanté.
Ah ouais.
Vous êtes des êtres altruistes, vous prenez soin des autres.
On est maternel.
Vous êtes maternant.
Ouais, tout le monde, toutes les femmes sont comme ça.
Sauf exception.
Sauf exception. La loi du 80 s'exprime là aussi. Là.
Okay. Loi du 80. On peut aller là, la loi du 80-20?
Oui.
Moi, je peux partout, partout
dans
hein,
toutes les directions.
Je suis comme ça, TDAHI, impulsivité. On va vers la loi du 80-20. Yvon, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qu'est-ce que la loi du 80-20?
C'est qu'on passe 80% de notre temps à faire des choses inutiles pour 20% du temps pour des choses utiles.
Ah! Okay? OK, moi, je parlais de la loi en amour, mais oui, c'est pas faux, ça aussi. Là.
Travail, en amour, c'est vrai partout.
Puis en amour, on aurait 80% chez notre partenaire. C'est ça, 80% ou 70% de compatibilité pour une relation?
Non, ça prend au moins 70% de compatibilité.
OK.
Parce que le couple est un creuset pour générer des crises. Arrêtez de vous imaginer que si vous rencontrez l'illusoire âme-sœur, qui n'existe ailleurs que dans vos têtes, OK?
Et que si
vous faites, si vous parlez ensemble et que vous communiquez, que vous faites l'amour, vous allez être heureux pour le reste de votre vie avec deux enfants. C'est de la foutaise.
La réalité, ça peut pas être plus clair.
La réalité, c'est qu'après la lune de miel vient nécessairement une espèce de lutte pour le pouvoir entre ce que madame veut et ce que monsieur veut. Et cette lutte pour le pouvoir-là n'est pas mauvaise en soi si elle permet à chacun de s'affirmer. Et elle n'est pas mauvaise à la condition que chacun veuille bien accepter d'apprendre l'un de l'autre.
Est-ce qu'elle est éternelle, cette lutte-là?
Elle est présente, y compris chez les couples heureux. Okay? Sauf qu'eux, ils gèrent plus facilement et vont passer plus rapidement au partage du pouvoir. Mmh. Nous, est là pour satisfaire les besoins de monsieur. Et les besoins de madame, il n'y aurait pas de problème si les besoins de monsieur et de madame étaient la même chose, dans le même ordre de priorité. La réalité, c'est que ce qui est le plus important pour monsieur, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important pour madame. Okay? Donc, c'est là où la lutte pour le pouvoir est. Et pour illustrer ça, dans mon bureau, j'ai un damier sur lequel il y a un jeu de dames, et en face, des pièces d'un jeu de dames, et en face, des pièces d'un jeu d'échecs.
Oh.
C'est ça, un couple. Le couple, c'est le damier. Madame joue aux dames, aux échecs. Parce que vous êtes assez changeante. Là. On ne sait jamais quelle femme va arriver à la
maison. Yvon!
Oh!
Yvon!
Alors que nous, on est plutôt linéaire, donc on joue aux dames. Deux jeux intéressants, mais qu'on ne peut pas jouer en même temps.
Non, effectivement.
Mais on peut alterner les deux jeux.
Okay.
Un soir, on joue aux dames, le lendemain, on joue aux échecs, pour arriver à ce que font les couples heureux, à développer un troisième jeu, intégrant certains règlements du jeu de dames, certains règlements du jeu d'échecs. Et tout le monde est content à 80%.
Oh, OK.
Les couples heureux se situent à 80% amants intimes et 20% ennemis intimes.
À quel point c'est bon de mettre des chiffres sur l'amour comme ça, de théoriser tout, de créer des équations, de s'attendre à des résultats un peu à la Chomsky étrange?
Bon, c'est pour permettre une meilleure compréhension, là, parce que notre cerveau est quand même pas tout puissant. Et... Et s'illusionne énormément, comme par exemple la loi de l'attraction.
Ouais.
C'est une belle illusion, c'est de la pensée magique, ça.
Pourquoi?
Les psychologues sont d'accord pour dire ça, incluant les consultants, incluant les...
Mon cerveau, c'est un ensemble de neurones qui traitent de l'information que mes sens m'envoient. Okay? Alors que ce n'est pas un aimant qui va attirer l'amour, la gloire, le succès, la richesse. Si j'ai... Tous les gens qui disent qu'ils ont gagné au gros lot disent qu'ils ont... ont pensé vraiment gagner au gros lot. OK, mais ça, c'est une personne, tu crois... Sur 10 millions. Les 10 autres millions, ils ont pensé aussi fort, mais ça n'a pas marché.
Tu es en train de détruire ma théorie de la loi d'attraction. Non, non. Non, mais en même temps, moi, je me dis qu'en étant dans la loi de l'attraction, eh bien, on se met dans un mindset positif et donc on devient un peu plus réceptif aux opportunités et par le fait même, ça nous amène tranquillement vers le but qu'on imagine, qu'on veut vibrer à l'intérieur. Oui. Et si c'est un effet placebo, ben coudon.
Oui, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'on est, on est fréquence. On dégage des fréquences, on est énergie d'une certaine façon.
Ça. Sans parler de la loi de l'attraction, en disant que mon cerveau, c'est un ensemble de...
Parce que tu n'es pas fermé non plus totalement.
Le malheur, tout comme le bonheur, est contagieux. Le rire est contagieux.
Oui, le bâillement aussi.
Le bâillement est contagieux. Quelqu'un qui pleure, hey, dans une pouponnière, là, un bébé pleure.
Oui.
Tous les autres se mettent à pleurer.
Par empathie. Mmh.
Okay. D'ailleurs, les femmes qui se tiennent beaucoup avec d'autres femmes, leur menstruation
aussi.
Se synchronise.
Ça, c'est biologique.
Ouais. Ouais. Biologique. C'est biochimique, ça, oui. Okay? Donc, le bonheur est contagieux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Me rendre heureux, moi, et m'entourer de gens heureux.
On serait la somme des 5 personnes qui nous entourent. Es-tu d'accord avec ça, toi, Yvon?
Les 5 personnes qui nous entourent...
Bien, semble-t-il que les 5 personnes qui nous entourent, on serait la somme de ça.
Ben, les 5 personnes qui m'entourent actuellement, c'est pas du tout les mêmes qui m'entouraient...
Oui, c'est
il y a 40 ans.
Mais avez-vous
donc,
déjà
on change en tant qu'individu.
Ben oui, on évolue.
Ouais. Oui, absolument.
Mais en même temps, le paradoxe, c'est que je suis toujours le même, moi.
Bien, si on évolue, comment vous êtes toujours le même?
Ben moi, j'ai l'impression d'être un homme de 44 ans dans un corps de 76 ans.
Oui, hey, ça, c'est vrai.
Je voudrais devenir trans.
J'avais de la misère à le suivre à Paris, malgré le...
devenir trans.
Je veux changer d'âge, moi.
Hey, là, non, mais moi, je veux revenir à mon 80-20, oui. Là. C'est que, c'est plus 70-30, finalement, mais c'est qu'en couple, j'ai déjà lu que notre partenaire pour une relation... saine, notre partenaire détiendrait 80 % de ce que l'on souhaite retrouver chez notre partenaire et tout ça. Oui. Mais au bout d'un certain temps, bon, la routine est embarquée et tout. Et on a tendance à remarquer le 20 % de ce que notre partenaire n'a pas qu'on aimerait. On le remarque plus facilement chez d'autres. Oui. Et là, on a peut-être envie d'aller vers le 20 % qu'on vient de croiser et de délaisser notre 80 % Mais c'est une sacrée grosse erreur, mesdames et messieurs. N'allez pas vers votre 20 % que vous venez de croiser. Ne quittez pas le 80 % pour le 20 % parce qu'au bout d'un certain temps...
Trois ans
en moyenne, vous allez regretter d'avoir quitté votre 80 % parce que là, tous les...
Peut-être que oui, peut-être que non.
Ben, peut-être que oui, peut-être que non, mais généralement, c'est une mauvaise décision. Donc, on avait-tu fini le...
Mais je veux continuer dans le 20, 80 ou 30, 70. Plus on est semblable sans être un clone de l'autre, moins les sources de conflits insolubles, et je vous dis que la majorité des conflits de couple sont insolubles, moins, à ce moment-là, les conflits vont être polarisés.
OK.
OK? Si on a sensiblement la même libido, toi puis moi, là,
ouais.
3,5 fois par semaine, pas de problème. Mais si toi, tu veux faire l'amour tous les jours, puis moi, une fois par 15 jours, je suis amplement suffisant pour moi, la sexualité va devenir un méchant problème. Si on a le même revenu, si on a la même attitude par rapport à l'argent ne sera jamais un problème.
Donc, est-ce que nos désirs peuvent devenir contagieux? C'est-à-dire que si on n'a pas les mêmes désirs et pas les mêmes envies par rapport à une certaine situation, comme par exemple la sexualité, là, je suis sûr que c'est présent dans beaucoup de couples. L'homme veut... on va prendre l'homme comme exemple. Il veut coucher avec la femme un
ça
peu plus
l'inverse.
Que la femme. Ça peut être l'inverse aussi. Est-ce qu'on peut en venir à un juste
consensus.
Milieu, à un consensus?
Ben, c'est là où il faut gérer des problèmes insolubles. On ne peut pas arriver à solutionner. La solution, c'est qu'on soit pareil. Okay? Mais si on n'est pas pareil...
Mm-hmm.
La communication, les gens pensent que la communication va nécessairement donner lieu à une communion, que on va finalement devenir d'accord, on va être d'accord avec l'autre. Mais les gens, j'appelle ça un problème de consensus, c'est pas un problème de communication. Si après communication, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, c'est preuve d'une excellente communication. mais on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut continuer de s'aimer?
Donc, on doit apprendre à vivre avec le désaccord en couple.
Ben oui, les couples heureux, une des caractéristiques fondamentales des couples heureux, c'est qu'ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Voilà. Et ce sur quoi ils savent qu'ils ne seront jamais d'accord, ils mettent ça sous le tapis.
Ils gèrent bien les conflits.
Ça veut pas dire apprendre, pour prendre l'image, là, ça veut dire apprendre à marcher main dans la main avec le désaccord, mais ça veut pas dire que le désaccord va faire en sorte que nous, on va boiter.
Ben non.
Il va pas nous diminuer.
Ben non. C'est ça. La différence peut nous enrichir par la communication, mais à la condition que j'accepte que l'autre soit autre et non pas qu'il soit comme je voudrais qu'il soit, l'âme sœur illusoire dont je parlais tantôt.
Ouais, tout à fait.
Et c'est la raison pour laquelle les couples, il y a tellement de célibataires, c'est que on pense que quelque part, il y a quelqu'un qui ne peut pas être heureux tant il y a aussi longtemps qu'il ne m'aura pas rencontré.
Ça, là, sérieusement, là, on l'a dit en ouvrant l'émission, soyez heureux seul pour pouvoir être ensuite épanoui en couple. Ne faites pas de l'autre un manque à combler, mais un plus au bonheur que vous aurez appris à créer.
Le bonheur se trouve seul et se partage.
Et voilà! Yvon, on va faire tirer deux livres parmi les personnes qui pourront peut-être nous texter votre statut. Statut civil, tiens. Êtes-vous en couple ou en solo? Êtes-vous célibataire ou en couple?
Ou polyamoureux ou en troupe.
Ou polyamoureux ou en troupe. Ou, oui, c'est ça. Partagez-nous ça là, par texto au 418-670-9098 avec votre nom. Et on va vous faire tirer deux ouvrages écrits par Yvon Dallaire que vous pourrez venir chercher ici là, à la station. Donc, textez si vous êtes en couple, en troupe, en duo, en solo. Peu importe, tout est valide. Et textez-nous ça au 418-670-9098. On va faire deux gagnants. On va vous répondre par texto et après l'émission. Et vous pourrez passer là, à la station de radio pour récupérer votre livre. Et pour parler de ce livre-là, Yvon?
Oui, le titre de ce livre-là, oui. Moi aussi, c'est un couple, un dessin, là, un couple assis sur un banc public avec une bulle au-dessus de la tête de la femme dans laquelle il est écrit « Moi aussi, trois petits points ».
Oui.
Et au-dessus de la tête de monsieur, c'est marqué trois petits points,
moi plus.
Trois petits points plus. Si vous écoutez vraiment les femmes parler entre elles, en général, lorsqu'elles sont copines, elles vont se réconforter l'une l'autre. Elles vont se dire, si tu savais comme je te comprends, moi aussi, je suis déjà passé par là. Je vis la même chose que toi. Ça vous permet de vous réconforter. Mm-hmm. Vous arrivez à compatir en vibrant sur la même longueur d'onde.
Ouais.
Mais si vous écoutez des hommes parler entre eux, c'est bien beau ce que t'as fait, mon ami Max. Là, mais hey, moi, là, bien plus que toi. Que
ben
j'ai
oui.
Fait.
Ah! Hey, puis moi, Yvon, là. Ah ben, hey, oui. Moi, j'ai fait de quoi de bien mieux que toi, là.
Ben oui. Et on adore cette compétition-là. Ouais. Et l'objectif de la compétition n'est pas de dominer l'autre, c'est de savoir. T'es situé où, toi? Dans quoi t'es bon? On s'évalue comme ça l'un l'autre. OK? Et c'est comme ça qu'on développe une amitié parce que on est capable de discuter sans...
être en compétition.
Sans s'affronter.
Sans s'affronter. Voilà. Est-ce que votre page couverture, question rapide comme ça, c'est une référence aux amoureux des bancs publics de Brassens?
Non, mais... Non, je ne pensais pas à ça à ce moment-là. Je pensais surtout à... Quand j'écoute les femmes, c'est quoi le sens de leur discussion, de leur conversation? Puis quand j'écoute les hommes, comment ils discutent, les hommes, entre eux? Évidemment, quand on met deux hommes dans une chaloupe, une journée de pêche.
Ça va bien.
Deux femmes dans une chaloupe, une journée de pêche.
Il y en a une à l'eau.
Deux femmes.
Deux femmes, OK.
À la fin de la journée, il y a de quoi écrire un roman.
C'est vrai.
Homme et une femme dans une chaloupe, une journée de pêche.
Oh oui.
C'est là où on va, moi aussi, moi plus.
Puis, donc, c'est un livre qui nous présente des phrases courtes et sur les petites différences entre l'homme et la femme. Et ce qu'on dit, c'est que sauf chez les 15 % de couples heureux, ça construit là, finalement un mur d'incompréhension entre deux êtres qui, au départ, s'aiment passionnément et voudraient vivre un amour durable. Oui. Donc, l'objectif du livre, c'est de mieux se connaître l'un l'autre pour mieux se comprendre et mieux s'aimer longtemps.
Wow. L'amour et c'est la bonne foi sont rarement en cause dans les couples qui vont mal. Mm. C'est pas l'amour et la bonne foi, même si on accuse l'autre de pas suffisamment m'aimer, ou d'être de mauvaise foi. C'est l'ignorance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes que j'ai mises.
Parce qu'il y en a, là, inévitablement.
Ben oui. Un gars, c'est un gars, comme disait l'autre. Un gars, c'est un gars, mais une fille, c'est une fille. Il y a très peu de différences entre les deux. On est beaucoup plus semblables que différents, mais les petites différences, on les ignore, sont lourdes de conséquences. Et l'ignorance aussi des dynamiques inévitables de la vie à deux ou la croyance en des croyances illusoires sur le couple. OK? Donc, par exemple, si à chaque fois que j'ai le goût de te parler, tu dois nécessairement trouver ça intéressant, ce que j'ai à te dire. C'est une illusion, ça. Ce qui m'intéresse, ça ne t'intéresse pas nécessairement, etc. Et les efforts à faire, quatre éléments. Amour, bonne foi, connaissance. Et les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et mettre en pratique ce qu'on sait aujourd'hui que font les couples heureux. Okay? Donc, ça demande des efforts pour arrêter de faire ce qui fait que vous êtes devant moi en thérapie. Continuez de faire ce qui fait que vous êtes toujours ensemble, parce que si vous êtes toujours ensemble et que vous venez en thérapie, c'est que quelque part, il y a encore de l'amour et de la bonne foi et vous voulez sauver votre couple. Mais il y a des choses que vous faites qui ne sont pas correctes. Donc, il faut faire des efforts pour arrêter de faire ça. Et moi, je peux vous aider à vous enseigner ce que font les couples heureux. Et à ce moment-là, ben, si vous mettez ça en pratique, ça va vous demander des efforts, mais c'est possible de faire partie. Moi, mon objectif, c'est d'augmenter le 20% de couples heureux à 21, 22, 25%.
Oui! Puis, je connais personne qui t'a consulté qui est ressorti déçu. Oui. Que ce soit des femmes seules, hommes seuls, couples, on en connaît, là. Je ne sais pas combien de gens t'as eu en consultation, là, mais...
Quelques milliers, probablement.
Il y en a en tabarouette. Donc, pour se procurer l'un de tes ouvrages, des ateliers, des tests, donc, on peut se rendre au yvondallaire.com.
Yvondallaire.com, oui.
Yvondallaire.com. Et là, on peut s'abonner à l'infolettre, évidemment.
J'ai une infolettre mensuelle. Un article, une chronique que j'écris à chaque mois sur le couple.
Toujours
intéressant. Il y en a déjà une cinquantaine d'écrites. Oui. Vous pouvez les lire. Il y en a qui se retrouvent dans certains de mes livres, mais pas nécessairement. Et ce qu'il y a dans mes livres ne se retrouve pas nécessairement dans mes chroniques, mais vous avez une foule d'informations et oui. Vous avez des tests aussi. Par exemple, vous avez un test d'évaluation de votre bonheur conjugal.
Oui, c'est super. Vous allez avoir
un pourcentage sur l'état de votre couple.
Wow! Merci, Yvon, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir et restez à l'affût, mesdames et messieurs, puisqu'on va probablement présenter une soirée aussi avec Yvon très, très bientôt. Merci, Max, d'avoir été là encore une fois. Ce show-là aurait pas lieu si t'étais pas là non plus.
Merci à toi. Merci, Yvon.
Merci, chers auditeurs. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. C'est un rendez-vous demain soir, 22h, pour La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio-Air.